Bonjour et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des magasins connectés. Donc le titre de la conférence, c'est « Magasins, faites d'Internet votre meilleur allié et pas votre pire ennemi ». Moi, je me présente d'abord. Je suis Mickaël Durand. Je suis l'animateur d'un blog spécialisé sur la thématique des magasins connectés, qui s'appelle Connected Store. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de Pascal Potvin de la société Compario.
Bonjour.
Et de Maxence Disler de la société Improvise. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement?
Très bien, donc je suis Pascal Potvin, effectivement je dirige la société Compario. Compario, un éditeur de logiciels spécialisé dans la navigation et le merchandising, qui a commencé à vendre ses produits en 2006, qui aujourd'hui est leader sur le marché français avec environ une cinquantaine de clients, qui travaille avec ses applicatifs. Société qui est adossée notamment au groupe La Poste et à e-source qui est issu de la Caisse des dépôts et consignations.
Donc, bonjour à tous, Maxence Disler, président de la société Improvise. Merci à tous pour votre présence. Mickaël qui présente le blog Connected Store. Donc, on vous invite à le découvrir. On pourra en parler aussi un peu plus tard. Donc, je passe la parole à Mickaël.
Donc, je le rappelle, cette conférence intitulée « Magasins, faites d'Internet votre meilleur allié et pas votre pire ennemi ». En fait, on aurait pu l'intituler « Vendeurs, faites d'Internet votre meilleur allié et pas votre pire ennemi ». Pourquoi ? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, même si on sait que les magasins ont besoin aussi de vendre sur Internet, d'adopter une stratégie multicanal, on s'aperçoit que sur les terrains, les vendeurs, eux, ont encore quelques difficultés à gérer cette multicanalité, justement. Donc aujourd'hui, on assiste à une certaine limite du multicanal et on voit apparaître le concept de commerce connecté, donc un concept que connaît très bien Pascal Potvin, qui va nous en parler un petit peu plus.
Oui, alors, je crois que c'est un scoop pour personne. Aujourd'hui, de facto, le commerce est connecté. Le commerce est connecté parce que votre client est connecté. Elle est connectée à la maison ou au bureau sur le web. Elle est connectée dans la rue sur son téléphone portable. Elle est connectée dans son salon, sur sa tablette, son iPad. Et donc, quoi qu'il advienne, aujourd'hui, ce commerce, qu'il s'exerce de façon traditionnelle dans un magasin ou autre, il est connecté. À tel point qu'on peut dire que le i de e-commerce est amené à disparaître, puisque quel que soit le type d'organisation qui est la vôtre aujourd'hui, eh bien vous êtes confronté à ce mode de consommation qui est le commerce en ligne. Donc ce commerce connecté, il se manifeste de multiples façons, et on peut dire que la première façon, c'est au niveau de l'impact sur les canaux de distribution eux-mêmes qui se chevauchent. Et on voit bien que ce terme de multicanal qui représentait une organisation en silo avec des canaux bien particuliers, d'un point de vue du client, du point de vue de la consommatrice, eh bien, ces canaux disparaissent. Et on voit bien que la consommatrice peut passer d'un canal à l'autre dans un laps de temps extrêmement court, voire même chevaucher plusieurs canaux en même temps. Nous sommes dans un magasin. Dans le magasin, nous utilisons une borne multi-touch pour réaliser un achat en collaboration avec le vendeur. Eh bien, quel est le canal qu'on emprunte à ce moment-là? Est-ce qu'on emprunte le canal magasin? Est-ce qu'on emprunte le canal web? C'est assez finalement difficile à dire. On peut dire que on chevauche tous ces canaux en même temps. D'où ce concept de cross-canalité ou d'intercanalité. Qui est né il y a maintenant un certain temps et qui commence à faire son apparition dans quasiment toutes les entreprises. On peut dire que finalement, quel que soit votre secteur d'activité, quel que soit le type de commerce que vous exercez sur le marché, eh bien, vous êtes confronté à cette problématique. Alors, il y a plusieurs points de vue. On peut prendre le point de vue de la marque, le point de vue de l'enseigne, et on peut prendre le point de vue du terrain. Je crois que ce à quoi faisait allusion Maxence à l'instant, c'était plutôt le point de vue du terrain. Et c'est vrai qu'on assiste à des phénomènes assez intéressants. J'ai en tête l'anecdote qui m'a été racontée par un de nos clients récents, qui a une chaîne de magasins qui est l'un des premiers à avoir mis sur Internet des produits de type électronique grand public dont le nom commence par un S et qui est un très très beau magasin qui vient de s'ouvrir à Lille et qui me racontait que les vendeurs en magasin parfois cachaient certains produits qui étaient disponibles à la vente sur Internet tout simplement parce qu'ils ne souhaitaient pas que le crédit de la vente de ces produits passe sur le canal Internet plutôt que sur le canal magasin. Donc sur le terrain, la réalité est parfois un petit peu différente de celle qui est celle de l'enseigne. Et donc ça donne des phénomènes de comportementaux qu'il va falloir de toute façon prendre en compte. On parlera dans un instant de la façon qu'on peut prendre en compte ces problématiques de crédit entre les différents canaux.
Tout à fait, justement, vous avez mis en place justement en application ce concept de commerce connecté dans un magasin Milonga, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu vos retours d'expérience par rapport à ce projet ?
Alors c'est vrai que aujourd'hui, quand on parle de commerce connecté et d'intercanalité, il y a de nombreuses expériences qui ont été menées, mais ces expériences n'ont pas toujours la même vocation et n'ont pas toujours les mêmes retours en termes d'indicateurs business. Et au final, on peut faire des choses très très belles, ce sont quand même les indicateurs business qui vont compter et c'est sur quoi nous essayons d'attacher nos mesures. Alors une de ces expériences particulièrement successful a été menée au sein du groupe Cultura dans la chaîne des magasins Milonga. Milonga Musique, c'est l'un des leaders français dans la distribution d'instruments de musique et de produits associés comme des partitions, etc. Et Milonga Musique, c'est 70 000 références en totalité. 70 000 références, il est clair que quelle que soit la taille, quelle que soit la surface des points de vente, il est quasiment impossible de présenter 70 000 références, surtout quand ces références vont du piano à queue aux guitares électriques en passant par toutes sortes d'accessoires et de partitions. Bien. Donc ça, c'est une de leurs caractéristiques. L'autre caractéristique, c'est que, évidemment, Milonga Musique vend énormément par le canal Internet, qui représente un pourcentage à deux chiffres de leurs ventes. Et puis, c'est également une vingtaine de magasins répartis un petit peu partout en France. Avec dans ces magasins un concept intéressant d'école de musique, un concept de scène sur laquelle les clients vont pouvoir tester les instruments, les utiliser, etc. Donc, il était important pour Milonga de pouvoir, un, étendre la totalité de son catalogue sur tous ces magasins, et quoi de mieux que finalement une borne interactive qui permet d'aller puiser dans le catalogue électronique et de présenter en surface de vente, qui de toute façon est un pôle extrêmement attractif et qui le restera probablement dans la stratégie de cette marque. Donc quoi de mieux qu'une borne interactive qui présente un magasin, toute la profondeur du catalogue, les 70 000 références finalement, et les rendre accessibles aux clients. D'un autre côté, l'instrument de musique en particulier est un produit où le sensoriel et l'émotionnel jouent un rôle extrêmement important et c'est finalement assez compliqué de véhiculer le sensoriel et l'émotionnel sur un site internet. En magasin, beaucoup plus facile. Donc la combinaison du magasin et de l'internet dans la borne multitouch va donner ce qu'on appelle la réalité augmentée, où finalement, bien mieux qu'un vendeur qui sert, va pouvoir vous montrer la guitare électrique qui vous intéresse, va pouvoir vous en présenter les caractéristiques, va pouvoir discuter avec vous. La borne, elle, va pouvoir présenter la vidéo de Jimi Hendrix ou de Casey Jones en train de jouer de cette guitare qui vous intéresse. Et ça, tout d'un coup, ça va vous interpeller au niveau de l'émotionnel, au niveau du sensoriel, bien mieux que ne pourrait le faire le vendeur. D'un autre côté aussi, certaines des références qui sont vendues par Milonga sont des références qui possèdent un nombre extrêmement important de caractéristiques, des caractéristiques qui sont techniques, et il est vrai que quel que soit le niveau de formation du vendeur, eh bien, il arrive un moment où la machine va avoir une mémoire beaucoup plus sûre et va pouvoir proposer aux clients les caractéristiques techniques de ces produits avec une infaillibilité que le vendeur n'atteindra jamais. On combine les deux, ça donne une borne interactive en magasin et les résultats sont absolument formidables puisque ça fait ça fait un an maintenant que les premières expérimentations ont eu lieu et elles sont en cours de généralisation parce que les ventes ont grimpé dans des proportions spectaculaires.
Donc Maxon, justement, Milonga fait appel à Improvise pour installer ses bandes tactiles en magasin. Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les besoins initiaux justement de Milonga et les objectifs?
Alors, ce qui était marrant, c'est qu'en fait, l'enseigne Milonga est venue nous voir en disant que voilà, nos vendeurs utilisent Internet, le site Internet de l'enseigne dans le magasin pour compléter leur discours. Donc déjà à l'époque, en amont, ils avaient entamé une démarche intercanal, cross-canal, où les vendeurs eux-mêmes avaient le besoin d'aller sur Internet pour compléter leur discours, faire des recherches et voir des produits. Et ce besoin, l'objectif, c'était de le transformer en produit à forte valeur ajoutée, parce qu'un site Internet n'est pas fait pour le magasin, comme le soulignait Pascal, mais ça a beaucoup de sens de pouvoir l'avoir en magasin. Les critères, c'était dans l'adaptation, c'était que ça soit simple à utiliser. Donc déjà, une souris, un clavier, c'était forcément éliminé, c'était éliminatoire, parce qu'à partir du moment où c'est un clavier, une souris, toute personne qui n'est pas habituée à l'informatique, c'est déjà une barrière en soi. Alors que sur écran tactile, la barrière disparaît, c'est des interfaces qui sont intuitives, naturelles, donc c'était un des critères, un des objectifs du projet. C'est transformer le site internet en une interface tactile, interactive, qui soit adaptée aux vendeurs.
On peut donner d'ailleurs l'exemple de la première vente qui a été réalisée, qui est totalement édifiante. Hein, si je me souviens bien, la première vente qui a été réalisée sur cette borne au moment où elle a été installée, c'est une ménagère qui est entrée dans ce magasin et qui souhaitait acheter une flûte à bec pour son fils au moment de la rentrée des classes, sauf qu'elle s'y est prise un petit peu en retard. Il n'y avait plus d'instruments qui correspondaient à ce qu'elle souhaitait en stock dans le magasin. Donc qu'à cela tienne, le vendeur l'a accompagnée à la borne. En quelques secondes, elle a commandé sa flûte à bec. Le soir même, elle était livrée chez elle. C'est QFD. Et il ne s'agissait pas évidemment d'une consommatrice particulièrement aguerrie et particulièrement au fait de la manipulation sur borne et tactile. Donc ça, c'était très très édifiant.
Et ce qui était encore plus édifiant, c'était le jour de la mise en place du premier magasin pilote. Et depuis, il y a énormément de petites anecdotes un peu sympathiques. L'un des deuxièmes objectifs qui rapidement est apparu, c'était de transformer l'outil en un vrai outil pour les magasins. Par exemple, un site internet ne redistribue pas le chiffre d'affaires qu'il génère en magasin. Et ne prend pas en compte non plus les objectifs des vendeurs. Donc ça, c'était l'un des objectifs, c'était de pouvoir inclure cet outil dans les processus de vente de l'enseigne et donc de pouvoir se connecter aux outils du magasin. Les besoins, donc là, si je parle en termes de besoins, c'était dans un premier temps, ce qui était important pour Milonga, c'était l'expérience client. Il voulait que l'expérience client soit ludique, agréable, parce qu'on est dans le domaine de la musique, c'est des amateurs, c'est des passionnés, donc il fallait que ça soit simple à utiliser, intuitif et très riche d'expérience. Donc ça, c'est globalement ce qu'on retrouve aussi dans la plupart de ce type de projet, c'est amélioration de l'expérience client, c'est qu'on a simplement besoin d'une interface qui permet de compléter des informations sur un produit, pouvoir aider les vendeurs à compléter leur discours, montrer des vidéos, avoir des avis d'internautes. Ça aussi, c'est extrêmement pertinent d'avoir des avis d'internautes en magasin, parce que du coup, ça crédibilise le discours, en fait. L'un des deuxièmes objectifs de Milonga, qui lui était à plus long terme, c'était de pouvoir transformer la borne en borne de vente autonome avec terminal de paiement intégré, d'être déployé en ce moment dans les magasins. Et donc là, la borne devient une station de vente qui peut potentiellement être déployée même chez des enseignes comme Cultura. Là, ça devient du shop-in-shop, où en fait, on transforme un magasin Cultura en enseigne Milonga de 70 000 références. On peut potentiellement trouver des informations, améliorer l'image de la notoriété de la marque. On ne va pas faire des ventes.
Vous, Pascal, justement, vous qui êtes quand même beaucoup en contact avec les enseignes de la distribution, est-ce que vous sentez une véritable tendance pour les enseignes à vouloir mettre l'Internet en magasin, le e-commerce en magasin ?
Ah oui, c'est totalement indéniable. Et là encore, c'est pas un scoop, mais évidemment, ce commerce connecté appelle à la fusion des canaux. Et cette fusion des canaux, eh bien, ce serait mentir que de dire qu'elle est simple à mettre en œuvre, puisque au-delà de l'enrichissement de l'expérience client, il y a beaucoup de considérations qui restent à prendre en compte. Alors, on peut effectivement prendre le point de vue du client, et c'est toujours un bon point de départ. Il est clair que là se pose la question, est-ce que la board interactive peut être utilisée directement par le client ? Est-ce qu'elle doit être utilisée en collaboration avec le vendeur ? C'est-à-dire qu'il y a ici encore beaucoup plus de questions qu'il y a de réponses. Et quand on regarde la façon dont d'autres de nos clients utilisent les boards aujourd'hui, eh bien on trouve un peu les deux écoles. En majorité quand même, les boards sont utilisés en collaboration avec les vendeurs. Mais il faut que cette expérience client elle soit fluide, elle soit simple. D'ailleurs, si on devait dégager de cet engouement pour les tables multi-touch une des grandes tendances du e-commerce, c'est bien celle de l'éloignement du beau pour aller vers l'intuitif. Et on se rend bien compte aujourd'hui que la recherche par mots-clés prend une place de moins en moins importante pour ceux et celles d'entre nous qui ont des enfants, qui connaissent des jeunes, et bien on se rend bien compte que le mot est en train de disparaître. D'abord, la notion d'orthographe, quelque chose qui est au mieux approximatif. Et ce mot disparaît au profit de moyens de navigation qui sont beaucoup plus intuitifs. Regardez ce qui se passe sur un iPhone, regardez ce qui se passe sur un iPad, regardez ce qui se passe sur une borne tactile. La reconnaissance par forme et par couleur est quelque chose qui est de plus en plus utilisé par nos clients. La reconnaissance vocale arrive à grands pas. Tout ce que nous faisons dans le domaine des agents conversationnels est encore une preuve de plus du déplacement des moyens de navigation et de recherche vers l'intuition à l'opposition du mot. Et donc, évidemment, la board, elle doit refléter cela. Et elle doit offrir une expérience fluide, agréable et efficace. Mais il y a évidemment la considération du marketeur. Le marketeur, il a en face de lui, malgré tout, un certain nombre de canaux. La plupart des expériences de board que nous avons vues dans les derniers mois sur le marché sont des expériences qui sont isolées. Sont des expériences qui ne sont pas connectées au système d'information et qui ne sont pas véritablement insérées dans la stratégie de commerce connecté des clients. Or, c'est une erreur, évidemment, mais pour faire cela, pour que le canal Internet, le canal magasin, le canal call center, ces canaux, pour qu'ils soient tous connectés et que le mode de vente soit adapté à tous les devices, tous les types d'équipements qui sont disponibles et qui sont plus ou moins adaptés selon les canaux, eh bien il y a des outils à mettre en œuvre et c'est là où ça devient un tout petit peu plus compliqué. Notamment l'outil qui est entre les mains du merchandiser, celui dont la responsabilité est de mettre en avant les produits, chacun pour sa ligne de produits, de telle sorte qu'il suscite l'acte d'achat. Eh bien celui-là, il faut qu'il ait entre les mains un outil qui doit lui permettre de pousser les informations de façon différenciée selon les canaux, mais à partir d'une même console de gestion. Et c'est là un petit peu toute la difficulté. Je vais prendre quelques exemples. La board qui se trouve par exemple dans le rayon bricolage d'un hypermarché, eh bien cette board, il ne sera pas utile de pousser dessus les tops du net. Les tops du net, c'est très important sur le web, sur le site. En revanche, sur la board qui est dans ce rayon, il sera beaucoup plus judicieux de pousser les meilleures ventes du rayon bricolage du magasin dans lequel on se trouve. Pour faire cela, il est nécessaire donc de pousser, de mettre à disposition les informations de façon différenciée selon le canal et selon le device. Autre exemple, si je suis opérateur de call center, eh bien, si c'est évidemment la stratégie de la société qui m'emploie, si c'est la stratégie de l'enseigne, il pourra être intéressant de mettre à ma disposition les informations liées aux marges des produits parce que au moment où mon client que j'ai au téléphone doit être guidé entre deux ou trois produits qui correspondent à sa demande, eh bien, il sera judicieux de pousser le produit qui est le mieux margé. Il est clair que ces informations sur les marges, on ne les mettra pas en avant sur le web. Donc, à partir d'une même console de gestion, pouvoir mettre à disposition les informations de façon différenciée selon les canaux et selon les devices, eh bien, c'est quelque chose qui est important d'être en œuvre. Alors, il y a beaucoup d'autres considérations à prendre en compte. Le temps qui nous est imparti ne permet pas de les examiner toutes, mais il y a notamment des considérations de type organisationnel qui sont absolument capitales et qui heurtent de plein fouet toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité et quel que soit leur métier. Est-ce qu'il faut différencier l'informatique et le métier ? Est-ce qu'il faut au contraire rassembler ces deux types de compétences au sein d'une même organisation ? Est-ce qu'il faut le faire de façon pérenne ? Est-ce qu'il faut le faire pour chaque projet ? L'organisation des flux d'informations, l'organisation du système d'information lui-même, tout cela a des conséquences finalement assez importantes qu'il convient d'examiner et sur lesquelles nous essayons d'accompagner nos clients pour une optimisation de ce commerce connecté.
Oui, donc j'ai une question pour Maxence justement. Pour vous, quels sont les facteurs clés de succès de la mise en place justement d'un système de magasin connecté, d'une vente tactile en magasin ?
Alors, merci Mickaël. Donc Pascal a déjà bien fait le tour de la question, notamment sur les aspects connectés. En effet, c'est une erreur de partir sur des systèmes autonomes et isolés. Ça, c'est déjà le premier constat, la première erreur à ne pas faire. Deuxième facteur clé de succès, c'est l'adhésion des vendeurs, l'adhésion des équipes de vente sur le terrain. Mettre une borne en magasin qui soit uniquement un site internet, qui ne soit pas pensé pour les vendeurs, ou en tout cas dans leur méthode, c'est un outil qui risque de prendre la poussière et de finir au placard. C'est absolument pas le but. Il faut un outil qui les aide et dont eux-mêmes en sont convaincus. Ça favorisera le succès, la démocratisation, en tout cas du projet vis-à-vis des clients. Vos clients utiliseront d'autant plus les bornes que les vendeurs les aident à les utiliser et qu'ils leur montrent tout ce qui est possible de faire avec les bornes. Un des deuxièmes facteurs clés de succès, c'est de se lancer, dans des projets pilotes. Le coût du matériel et on va dire du merchandising n'est plus un frein. Aujourd'hui, on est sur du matériel qui a considérablement chuté en termes de prix sur les écrans tactiles et notamment multi-touch. Là ici, sur un déploiement, on va plutôt parler de la qualité du merchandising et du déploiement. Là, il faut se faire accompagner par des acteurs qui sont capables, par exemple, de faire de la maintenance à distance et qui vont être capables de monitorer les indicateurs clés de performance. Combien de temps les écrans sont utilisés par jour, combien de fiches produits, quel chiffre d'affaires par vente. Là aussi, c'est important. Un projet pilote, c'est une étape, mais passer l'étape du déploiement, c'est là qu'on a besoin d'une plateforme industrielle avec maintenance à distance, mesure les mesures de la qualité de la performance. Là, un exemple, par exemple, chez Milonga, sur la période de Noël, on a eu sur un magasin jusqu'à 600 fiches produits consultées par semaine. Donc, surtout sur des périodes d'affluence comme le samedi, où là, les vendeurs sont complètement dépassés par l'afflux des clients qui sont au magasin et les bornes sont saturées du matin jusqu'au soir. Et sur le mois, ça fait à peu près 2000 fiches produits consultées par mois, en tout cas sur le mois de décembre chez Milonga, sur un magasin. Voilà.
Et ça d'ailleurs, c'est réellement important parce que sans même parler de la nécessité de travailler sur des matériels et logiciels industriels qui doivent être conçus pour faire face à des volumes qui sont évidemment très importants, il y a la façon de travailler avec le vendeur, il y a une considération fondamentale qui est le fait de pouvoir aider le vendeur, de l'aider à étendre sa connaissance. Et très nombreux sont les exemples où finalement les vendeurs n'ont pas la capacité humaine d'avoir en tête toutes les caractéristiques de toutes les références qui qui sont proposés à la vente. Surtout lorsque ces vendeurs sont des vendeurs qui ne sont pas spécialisés, ou que ce sont des vendeurs qui sont amenés à proposer vos produits parmi d'autres produits dans un contexte de point de vente qui ne vous appartient pas en propre. Et dans un contexte comme celui-là, eh bien, évidemment, la borne propose une extension du savoir du vendeur, sans aller même jusqu'à la réalité augmentée, une extension à la connaissance du vendeur qui est extrêmement appréciée par le client, ce qui nous permet, surtout sur des produits qui sont complexes, on pensera à la cosmétique, on pensera aux produits techniques, on pensera aux instruments de musique par exemple, mais ça peut également aller jusqu'au textile ou à l'alimentaire. Si vous faites attention au label bio, par exemple, sur les aliments que vous consommez, eh bien, vous allez vous attacher aux caractéristiques techniques des produits. Et là, le vendeur aura souvent un petit peu de mal à vous aider, tout simplement parce que la base des informations qu'il est nécessaire pour lui d'acquérir est prohibitive.
Alors à ce sujet-là, j'ai une anecdote qui est aussi intéressante. On a fait un audit de qualité, en l'occurrence, Minga. Les vendeurs nous disaient qu'ils se servent des bornes maintenant pour se former et pour former les nouveaux vendeurs. Dès qu'il y a des nouveaux produits ou qu'il y a des mises à jour du catalogue, ils s'en servent pour monter en compétences. Ça devient un outil d'auto-formation en fait. Voilà.
Bon, eh bien, merci beaucoup Pascal et Maxence. Maintenant, dans le temps imparti, on n'a pas forcément abordé tous les sujets. Justement, maintenant, c'est le temps des questions. Si vous avez des questions, partez.
Bonjour, une question pour le cas de Minga. Vous parlez des bornes dans les magasins. Est-ce qu'il y a une action particulière sur le site, vraiment détacher les magasins pour accompagner cette mise en place?
Alors, oui, en fait, elle est très simple. C'est une formation d'une heure, simplement pour la mise en marche de l'outil. Et c'est plutôt une démonstration en fait pour les vendeurs en mode scénario. Je suis un client, je cherche quelque chose, le vendeur ne sait pas répondre parce que chez Minga par exemple, il y a des vendeurs spécialistes guitare, des vendeurs qui vont être spécialisés dans les basses. Donc si vous allez voir le vendeur spécialiste dans les basses qui vous demande un violon, mais que le spécialiste dans les violons n'est pas disponible, il va quand même pouvoir vous emmener sur une borne avec un outil de recherche, soit par mot-clé, au moins pour vous faire patienter. Donc ça, c'est des scénarios qu'on explique. On leur montre comment, dans leur méthode de vente, inclure ça. Et au final, ça rentre très bien, puisque l'interface est suffisamment intuitive pour qu'ils la prennent en main, sans presque aucune explication. Donc, c'est plutôt de la méthode de vente qu'on leur fait que de l'aide technique, en fait. Il n'y a d'ailleurs pas de mode d'emploi, c'est volontaire. On n'aura jamais, je pense, un mode d'emploi avec une borne sauf pour la partie technique, mais plutôt des scénarios d'utilisation vente. Voilà.
Ça répond à votre question?
Juste un petit complément. Je pensais, vous parliez de chiffre d'affaires attribué à un magasin. Est-ce que ça veut dire que sur une zone de chalandise ou avec un login client en vente en ligne, ça a apporté des modifications du type? C'est attribué à un magasin parce que c'est un magasin, enfin, tout ce qui relève de la vente en ligne qui a pu être modifié par rapport à cette mise en place.
Alors, évidemment, l'impact est très important. Évidemment, également, cela va dépendre de la façon dont vous souhaitez organiser cette répartition de chiffre d'affaires. Si je prends deux exemples extrêmement simples et relativement classiques, entre un circuit de distribution franchisé et un circuit de distribution en propre, eh bien vous n'aurez pas les mêmes problèmes. Si l'essentiel de votre circuit de distribution ne vous appartient pas en propre, il sera nécessaire de faire un gros effort sur la répartition de votre chiffre d'affaires et d'associer systématiquement les ventes qui sont faites en ligne à la zone de chalandise dans laquelle se trouve le magasin franchisé. C'est l'un des freins d'ailleurs auxquels nous avons assisté. Il y a de très grandes enseignes, je pense notamment à des secteurs d'activité qui sont en train d'exploser dans d'autres pays que le nôtre, notamment dans le domaine de l'optique, où en France on a beaucoup de difficultés, précisément parce que les réseaux de distribution sont rarement des réseaux de distribution en propre et on pose une résistance très très importante à cette répartition du chiffre d'affaires. Néanmoins, la façon de gérer cela est relativement simple. Nous le faisons par exemple avec une enseigne connue qui s'appelle But, qui a presque 250 magasins aujourd'hui, dont une grande partie en franchise. Et systématiquement, lorsqu'un achat en ligne est effectué, nous traçons la zone de chalandise qui correspond au magasin et nous attribuons la vente au magasin. Donc c'est faisable, c'est pas compliqué, c'est plus une question d'organisation en amont qu'une question de mise en œuvre derrière. On n'a malheureusement pas très bien entendu. Mettez le micro contre votre menton.
Là, vous m'entendez.
Voilà, c'est parfait.
Je voulais savoir si c'était juste la réplication en fait, du site internet ou s'il y avait en plus une base de connaissances avec des fiches produits plus détaillées qui apportent en fait une valeur ajoutée supplémentaire que la simple consultation du site.
Alors, je donne un premier niveau de réponse, mais Maxence va rentrer vraiment dans le détail pour vous expliquer comment ça fonctionne. Je crois que c'est très important d'avoir une cohérence entre les différents canaux. Et donc, entre ce qui se passe en magasin, ce qui se passe sur le site web, ce qui se passe sur la borne interactive, il est nécessaire d'avoir une cohérence. Donc, le catalogue produit est le même. Ce catalogue produit contient donc les fiches produits avec toutes les caractéristiques techniques des produits qui sont vendus. Maintenant, évidemment, selon le type de matériel, déjà l'interface graphique n'est pas du tout la même, le mode d'utilisation n'est pas le même. Vous voyez bien que quand vous naviguez sur le web, c'est-à-dire avec le protocole HTTP, pour être extrêmement précis, ben voilà, vous avez un ordinateur entre les mains, vous naviguez avec une souris, avec un clavier. Sur la borne, c'est plus du tout la même chose. Donc l'interface est forcément très différente. En revanche, lorsque vous mettez en avant un produit avec une règle de merchandising, que celle-ci soit sur le site web, qu'elle soit sur la borne, qu'elle soit dans le magasin, cette même règle, elle doit offrir une cohérence dans l'expérience d'achat. Et donc c'est la raison pour laquelle le cœur du système reste identique et est distribué avec bien entendu toutes les différences qui peuvent exister entre les différents équipements et entre les différents canaux. Maintenant, pour parler de la borne plus spécifiquement, je vais céder la parole à Maxence qui va vous expliquer quelles sont les grandes différences entre le site web et la borne multitouch.
Merci Pascal. Alors le grand secret, ne le répétez à personne, c'est en effet de, comme l'a dit Pascal, de ne surtout pas répliquer une base de données et de justement capitaliser sur un seul et unique référentiel. Les solutions, en tout cas sur lesquelles nous on travaille, ce sont des solutions qui se connectent grâce à des web services. Tout simplement, on va se connecter sur le référentiel, qui est le même référentiel qu'Internet, pour récupérer les informations. Sauf que ce n'est pas du tout la même manière de présenter les informations qu'un site Internet. C'est adapté au tactile, adapté à tous les âges, mais on récupère la même chose, les avis des internautes, y compris les règles de tri, de recherche, de mise en avant de produits, de merchandising, les vidéos YouTube, les images. Donc c'est vraiment un point critique, c'est de récupérer la même chose. C'est aussi des contenus qui vous coûtent cher sur Internet, il n'y a aucune raison de ne pas les récupérer en magasin. Voilà. Merci.
Vous parlez aussi, vous parliez tout à l'heure de prix, d'enveloppe financière. Est-ce qu'il y a un nombre de magasins minimum qui fait que la mise en place de cette stratégie de borne en magasin devient intéressante ou est-ce que ça peut être fait pour des petits?
Oui, alors comme dit Pascal, donc c'est 200 000 magasins minimum. on a fait en sorte d'avoir un modèle qui a un coût à la borne. Donc quel que soit le nombre de magasins, c'est il n'y a pas une étape plus grande à franchir pour une grande enseigne qu'une petite enseigne. ça va être même des coûts qui vont être moins chers qu'un site internet, à partir du moment où on peut partir sur une interface qui est standardisée. Je prends un exemple d'un site web e-commerce bien connu qui commence par un M et qui finit par un O. On peut très bien créer ce site, un site internet sans aucune personnalisation. C'est le même cas pour une borne tactile. Vous pouvez très bien décider de mettre en place une borne interactive dans un premier temps sur les 6 premiers mois en ayant une personnalisation qui soit standard, et 6 mois après, si ça fonctionne, de personnaliser l'interface. Et donc là, il y a un petit peu de développement spécifique et de travail. Mais c'est un modèle SaaS, locatif. Donc ça peut commencer très simplement et très facilement. Voilà.
En fait, je crois que ce qui est important dans votre question, c'est le retour sur investissement. Donc, les prix sont scalables. Hein, ils suivent une échelle. Je ne sais pas comment on dit en français, scalable. On peut les échelonner en fonction de effectivement du nombre de magasins. Le retour sur investissement est constaté dès la première borne sur le premier magasin. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, le modèle est viable. Plus vous avez de magasins, plus vous avez de chances effectivement de maximiser votre retour sur investissement parce que vous allez réaliser quand même quelques économies d'échelle. Mais à partir du premier magasin, on a des retours sur investissement et c'est les expérimentations que nous avons faites ont commencé par une borne, un magasin. C'est là-dessus qu'on a fait la mesure. À partir du moment où le business model est viable sur une borne d'un magasin, voilà. Évidemment, plus vous en mettez, plus vous allez maximiser votre tour.
Bonjour, j'ai une petite question. C'est par rapport à ce produit. Je voulais savoir si vous l'avez installé déjà chez des banques, ou des assureurs, ou pour des gens qui proposent une prestation de service.
Alors moi, je vais vous faire un premier niveau de réponse. Le matériel en lui-même, Compario ne l'a pas installé dans le domaine de la banque et de l'assurance. En revanche, nous avons de multiples expériences positives d'utilisation entre les mains du vendeur du même outil que celui qui est utilisé par le groupe Cultura, par exemple, pour aider le vendeur précisément à étendre son champ de compétences, ou en tout cas étendre sa capacité à proposer à son client des informations précises, détaillées sur des fiches produits. Je fais référence notamment à une expérimentation très successful qui a été montée avec AXA, où le client, en face à face avec son vendeur, avait la possibilité de la part du vendeur de recevoir des informations comparatives entre tous les contrats d'assurance qui étaient disponibles. On parlait d'assurance vie. En France, il y a à peu près entre 700 et 1 millier de contrats d'assurance vie en vigueur à un instant T. Un vendeur normalement constitué n'a pas la capacité d'avoir en tête toutes les caractéristiques, et c'est relativement complexe et sophistiqué, toutes les caractéristiques de ces contrats. Donc là, il s'agit d'avoir pour lui un outil qui soit simple d'utilisation, qui soit efficace, rapide, parce que vous êtes en face à face avec le client, il ne s'agit pas de prendre 5 minutes pour répondre à une question. Et donc, toutes ces caractéristiques-là, on peut très facilement les transposer avec un type d'équipement différent, qui serait la borne interactive, et le mettre à disposition du client tout seul, peut-être pas sur des produits aussi sophistiqués, quoique la question peut réellement se poser, avec l'assistance d'un vendeur, sans aucun doute.
Rien à ajouter. Voilà, merci Pascal. Je crois qu'il y avait une question au fond là-bas.
Bonjour, j'avais deux questions en fait. La première, vous avez parlé tout à l'heure de la baisse des prix sur les écrans multi-touch. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de prix sur un 46 pouces multi-touch ? Ma deuxième question, elle est sur le fait qu'on parle d'écran connecté. Est-ce qu'on est connecté jusqu'au bout, à savoir comment est-ce qu'on met à jour les informations qui viennent des catalogues qui évoluent? Est-ce que c'est mis à jour directement sur la borne, ou est-ce qu'il y a un système de mise à jour pour tout?
Alors pour la première question, la réponse n'est pas forcément unique. encore une fois, il dépend de, du type d'écran que vous voulez. Est-ce que vous voulez l'habiller dans un meuble? Est-ce que c'est un meuble qui est fait sur mesure? Est-ce que c'est un meuble qui est standard? Si on prend uniquement la partie technique, elle est négligeable. En fait, c'est presque la partie merchandising, les meubles sur mesure, qui va avoir le plus d'importance. Sur ce type d'écran, 46 pouces, c'est quelques milliers d'euros, mais c'est en l'occurrence, sur ce type de meuble que vous voyez derrière, c'est le meuble qui a coûté plus cher que la partie technologique. Mais je pense que ça dépend vraiment de la place que vous voulez accorder au meuble dans votre magasin. Est-ce que c'est plutôt un écran qui est mural? Donc là, forcément, c'est des coûts qui sont différents. Est-ce que c'est une tablette, tout simplement, hein, ça peut commencer à une tablette qui vaut quelques centaines d'euros, qui est posée correctement sur un meuble, mais qui va avoir une fonction de vente unique. Donc là, ça peut commencer bas et ça peut monter très haut. Sur des meubles sur mesure sur lesquels on est en train de travailler pour une enseigne qui font plusieurs mètres de hauteur, on est on est au-delà de la dizaine de milliers d'euros, on va dire. Mais encore une fois, tout dépend. Est-ce que vous voulez une imprimante, un scanner de code barre, un terminal de paiement? Malheureusement, c'est beaucoup de sur-mesure encore aujourd'hui. C'est en train de s'industrialiser. Les coûts des pièces baissent, ça c'est une certitude. Les grands mastodontes du matériel sont en train justement de tirer les prix vers le bas. Mais voilà, la problématique elle est globale. Sur la deuxième question, pour la connexion, c'est tout simplement une connexion internet qui est perpétuelle. Donc à partir de là, l'application accède aux données à la demande, elle les télécharge on demand, comme un site web, de la même manière. Et pour la maintenance, c'est des outils de maintenance à distance qui permettent à un opérateur de prendre le contrôle sur les bornes aussi à la demande. Voilà. Toujours grâce à une connexion internet qui est sécurisée autour d'un VPN, etc.
Oui, je crois que le point principal autour de la seconde question, c'est la disponibilité. Or, aujourd'hui, on est capable de garantir des taux de disponibilité qui sont proches de 100%. C'est d'ailleurs grâce au cloud que nous pouvons garantir cela. C'est la raison pour laquelle nous avons placé nos applicatifs dans le cloud. Parce que en termes de sécurité, en termes de performance et en termes de disponibilité, on a presque un réservoir illimité de puissance derrière nous. Alors évidemment, il y a le cas où la ligne devient indisponible dans le magasin pour une raison X ou Y. Donc là, il y a un système de résilience de la borne qui nous permet de continuer à réagir aux stimuli du client et s'accommoder d'une coupure de ligne qui peut aller jusqu'à... je ne sais plus exactement, je crois que c'est une heure, c'est ça. Ouais.
Bon, bien, je crois qu'on arrive à la fin du temps réglementaire. Peut-être le temps d'une dernière question.
Il y en a encore une juste devant. Allez,
juste la dernière.
Oui, c'est encore moi. Je voulais juste savoir si vous aviez aussi mis en place un retour client. C'est-à-dire que là, on pousse des produits et des ventes sur le lieu physique. Est-ce que aussi le client a la possibilité de mettre à jour sur la communauté le portail, des avis, notamment moi je pense plutôt au prêt-à-porter, d'avoir fait aussi des sélections d'objets qu'on peut garder dans un profil utilisateur individuel. Vous voyez ce que je veux dire ?
Vous voyez, en fait ça c'est tout ce qu'on peut faire sur internet, qu'on ne peut pas faire en magasin, mais qui est totalement pertinent en magasin, c'est justement ce qu'on fait, c'est la mission d'Improvise, c'est récupérer son compte client en magasin, par exemple grâce à une carte de fidélité. Donc avec une carte de fidélité qu'on vient passer pour la vente, on récupère son compte. On peut créer une sélection de produits chez soi et la retrouver en magasin à partir de la bande grâce à une carte. Donc c'est déjà des choses que l'on fait. On peut aussi poster des avis d'internautes, je ne sais pas si ça faisait partie de votre question, mais directement à partir du magasin. On peut même très facilement poster des avis vidéo, parce que autant sur Internet, on ne maîtrise pas l'ordinateur des internautes, mais en magasin on a directement une caméra, on peut très bien poster des avis vidéo sur une vente très facilement.
Donc aujourd'hui dans les ventes que vous avez implémentées, vous avez déjà mis des solutions aussi comme ça
Disons que c'est des solutions qui ne sont pas encore en magasin là, sur la partie vidéo, mais sur lesquelles on est en train de réfléchir et on a déjà des démonstrations qui sont en cours de montage.
Comme très souvent, la technologie est relativement facile et simple à mettre en œuvre. Il y a d'autres considérations, notamment en ce qui concerne la grosse problématique des notes, des avis, des commentaires des utilisateurs, c'est la problématique de la modération. Donc oui, vous pouvez ouvrir la mise en œuvre de vidéos testimoniales de la part de vos clients, c'est ça, vous avez la caméra sur la borne, vous placez devant la borne, la caméra vous voit. Après, comment est-ce que vous faites pour faire la modération de ce qui va être mis en place? Est-ce que vous voulez faire une modération, etc. Donc il y a des considérations organisationnelles qui sont préexistantes à ce qu'on va pouvoir faire à la technologie.
Alors, c'était plutôt des idées shopping. On peut essayer, par exemple, en prêt-à-porter plein de choses et faire partir qu'avec une moitié, mais c'est bien peut-être se souvenir de ce qu'on a vu, essayé, pour pouvoir après peut-être chez soi, soit avoir envie de revenir en magasin, soit d'acheter à distance. En fait, c'était plus dans l'expérience de shopping.
Alors ça, on va pouvoir vous le montrer. C'est tout simple. Hein. C'est un ticket qui s'imprime. C'est un ticket qui s'imprime avec tout ce que vous avez vu sur un magasin, qui est intéressant. Et le ticket reprend le nom du produit, une URL et un code barre. Ce code barre, vous pouvez le scanner de chez vous et vous en mettre directement sur la page web. Ça vous évite de le saisir directement. Ou sinon, vous revenez en magasin et ça rouvre votre sélection. Voilà. Et ça, donc ça, c'est déjà disponible.
Bon, et bien, merci à tous d'être venus. Et vous pouvez venir continuer la conversation avec nous.